Philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard, le 16 juin 1988.
Nous avons essayé de comprendre comment le relatif joue ce rôle très important dans notre vie et combien, du point de vue métaphysique, il est la détermination, la forme la plus fragile, la plus débile. Et je crois que ça fait comprendre pour nous combien facilement, par le point de vue de la relation, l'aspect du vivant passe avant le point de vue métaphysique. C'est pas le seul point de vue, parce que il y aurait tout le point de vue de la conscience qui fait comprendre aussi ce point de vue-là, mais sûrement que le point de vue de la relation joue ce rôle très important au point de vue de la vie et au point de vue de l'être. Il apparaît dans toute sa fragilité. Je n'insiste pas là-dessus, et je crois que c'est très important de le saisir. Je vous disais en terminant hier que il fallait bien comprendre, en raison de cette débilité, de cet être qui est tourné vers un autre, donc il ne peut jamais être saisi dans sa simplicité. Le relatif répugne à la simplicité. Ils sont toujours deux. Il y a toujours son corrélatif. C'est un être tellement débile qu'il a besoin de s'appuyer sur un autre. Mais il s'appuie par lui-même sur un autre. Ils sont deux. Toujours. C'est un sens-là qui n'a pas de simplicité. C'est sa structure même d'être relatif à un autre. Et l'autre est essentiel à lui. Il est donc ce qui est par lui-même incapable de se déterminer. Et cependant, par son fondement, il y a une certaine détermination. Alors c'est ça qu'il faut bien saisir, ce rôle propre du fondement. Et c'est pas commode. Est-ce que c'est le fondement qui détermine? Est-ce que c'est les termes corrélatifs? Alors prenez toujours l'exemple de l'amitié. Parce que si vous n'avez pas dans votre intelligence un exemple très net, vous risquez de perdre pédale. Dans l'art de l'amitié, puisque c'est le relatif par excellence, c'est le relatif le plus substantiel lors de l'amour d'amitié. Nous avons les deux avis. Ils sont face à face. Donc ils sont corrélatifs. Et ces deux termes corrélatifs, ces deux avis corrélatifs, si l'un disparaît, il n'y a plus d'exercice de l'amitié. Et s'il n'y a plus d'exercice de l'amitié, l'amitié existe-t-elle encore? Et l'ami disparaissant, l'amitié disparaît. Vous avez en plus le fondement. Quel est le fondement des deux amis? C'est la koinonia. La mise en commun. Qui peut varier. Prenez dans l'amitié pure, la mise en commun, c'est le don réciproque. La mise en commun peut être dans une amitié utile. Les qualités. Le fort en thème et le fort en version. Tu es très compétent dans cette matière, moi je suis compétent dans une autre, on va s'entendre. Ça peut très bien se faire comme ça. Les vases communicants, c'est très bien. Et au fond, c'est la meilleure façon de s'entendre. Donc, il y a une mise en commun des qualités qui peuvent être tout à fait différentes. Il y a le don réciproque, et puis les qualités. Puis l'amitié de jouissance, c'est dans l'ordre de la sensibilité. Dans l'ordre des passions. Par là, je spécifie la diversité des amitiés honnêtes, utiles. Agréable. Ça, on peut facilement saisir. Et l'amitié restera toujours la même chose, une sorte de réciprocité. Un exercice où on ne peut se réaliser dans l'amitié que dans ce face-à-face. Donc, on voit bien, l'exercice ne spécifie pas qu'est-ce qui caractérise telle ou telle amitié. C'est la mise en commun. Donc, c'est bien le fondement. Et c'est ça qui donne à l'amitié son caractère spécifique. L'exercice qui est de l'ordre de l'exister. La relation existe dans son exercice. Exercice face à face, deux termes corrélatifs qui se renvoient l'un à l'autre. Et le caractère spécifique, ce qui détermine, c'est la mise en commun. Et puis alors ensuite, 1, 2, 3, vous avez le sujet, Pierre, Jean, les deux amis. Vous voyez que là, on a le sujet dernier, donc l'aspect de la substance première, qui d'une certaine manière donne l'existé à cet exercice, en étant précisé par le point de vue du fondement. Donc, je vois bien que c'est le fondement qui détermine, qui spécifie. Mais voyez comme c'est délicat. Parce que c'est vrai que c'est le fondement. Mais ce fondement est intimement lié à l'aspect de la corrélation. C'est sûr, il caractérise l'exercice, mais il n'est vraiment relatif. Que grâce aux deux termes. De sorte que le fondement, il fonde. Et donc, il donne une spécificité radicale. J'allais presque dire générique. C'est pas tout à fait juste, mais on pourrait le dire. Et l'ultime spécificité est quand même dans l'exercice. C'est ça que c'est très délicat. Ordinairement, c'est ce qu'on dit. Le fondement spécifie. Et je comprends très bien. Le fondement permet de comprendre si j'ai une relation réelle ou une relation de raison. Le fondement permet de caractériser telle ou telle relation. Mais il faut bien comprendre que le fondement spécifie, pas d'une manière ultime. Et la spécification d'une manière ultime se fera dans l'exercice même. Parce qu'il est évident que l'exercice d'un amour d'amitié, d'un amour utilitaire ou d'un amour de jouissance n'est pas le même. Et donc, la spécificité qui vient du fondement, radicalement, va caractériser l'exercice lui-même. Mais ça qui n'est pas commode, c'est là où on voit très bien que notre langage n'est pas adéquat du tout au relatif. Le relatif est trop débile, il éclate pour nous. Mais on peut sentir ça, que le fondement est radical, ça c'est sûr, c'est vraiment celui qui donne la note, mais il la donne d'une manière fondamentale et pas d'une manière ultime. Et ce ne sera que dans l'exercice que ce sera quelque chose d'ultime. Bon. Je prends maintenant l'analyse de l'universel. Parce que c'est une relation. Vers le multiple. Si je prends l'universel, donc l'exercice de l'universel, c'est la capacité de 1 à être dans le multiple. Alors prenez l'universel générique. Le premier prédicable, l'universel générique, animal. Vous avez l'un qui est le même à travers tout ce que j'appelle l'animal, et puis qui est attribué, ou qui peut être attribué, à des multiples termes. De multiples réalités. Il est animal, peut-être attribué à pierre, à chien, à chat, et ainsi de suite. Donc, vous voyez ici que c'est l'un vers le multiple, attribué au multiple. Les deux termes. Qui sont corrélatifs, qui s'appellent l'un l'autre. Le fondement. Le fondement de l'universel, c'est la connaissance rationnelle, abstraite. Si on veut préciser, l'universel n'apparaît qu'à partir de la forme intentionnelle, intelligée, d'un concept, ce qu'on appellera le concept. Pas d'universel sans concept. Donc le fondement de l'universel, c'est bien le concept. Le concept dans la connaissance abstraite, dans la connaissance rationnelle. Le sujet, c'est l'homme qui connaît. L'homme qui pense. L'homme pensant. Donc vous retrouvez, pour bien comprendre ce que c'est que l'universel, vous retrouvez deux termes corrélatifs. Le fondement, et le sujet. Vous voyez tout de suite que le fondement n'existe. Il existe dans la pensée, puisque c'est la pensée elle-même. Il n'existe donc qu'au niveau de l'intentionnalité. C'est pour ça que vous dites que l'universel est un être de raison. Par son fondement, vous comprenez tout de suite que l'universel n'existe que dans l'intelligence. Vous ne pouvez pas saisir l'universel en dehors de l'intelligence. Alors, qu'est-ce qui spécifie l'universel? Qu'est-ce qui lui donne son caractère propre? C'est bien le fondement. Cette forme intentionnelle, le concept. Pour avoir un universel générique, vous voyez, vous distinguez l'universel générique de l'universel spécifique, de l'universel propre, de l'universel accident. Qu'est-ce qui me permet de faire cette distinction dans l'universel? Qu'est-ce qui me permet de caractériser les cinq prédicats? Qu'est-ce qui permet de distinguer les cinq prédicables? Le genre n'est pas la différence spécifique. La différence spécifique n'est pas le propre. Et le propre n'est pas l'accident. Bon, ayez toujours dans la tête animal, différence spécifique rationnelle, l'espèce homme, le propre capable d'apprendre le latin, c'est le propre de l'homme. Capable de rire, capable d'apprendre le latin. Celui qui n'est pas capable d'apprendre le latin, il lui manque quelque chose. Donc la capacité d'apprendre le latin, capacité. Les latins disaient la grammaire. Capable d'apprendre la grammaire, si vous aimez mieux. Et puis l'accident, la grosseur, la couleur des cheveux, la couleur des yeux. Accidentelle, ainsi de suite. Donc, vous avez ces cinq prédicables qui divisent l'universel, donc qui ont leur caractère propre. Ils ont vraiment quelque chose de particulier. D'où vient cette diversité? Elle ne vient pas de Unum ad multis. Toujours le même. Ça vient du fondement. Ça vient du concept. Ça vient de cette forme intentionnelle qui a une extension plus ou moins grande et une compréhension plus ou moins grande. C'est comme ça que vous distinguerez le genre de la différence spécifique. Vous direz que le genre a l'extension la plus grande et la compréhension la plus faible. Vous direz que la différence spécifique, au contraire, une extension très faible, mais quelque chose de particulier au point de vue de la compréhension. La compréhension beaucoup plus grande. Donc, c'est par rapport au fondement que les cinq prédicables se diversifient. Et qui sont leur caractère propre. Ce n'est pas par rapport au sujet qu'il connaît, c'est toujours Pierre qui pense. Pierre pense le genre, Pierre pense la différence spécifique, Pierre pense le propre. Vous voyez bien ça, hein? Donc vous voyez bien que c'est le fondement qui diversifie. Parce que cette diversité des cinq prédicables, autrement se prendrait d'où? A priori. Vous direz que c'est a priori, oh, il y a cinq prédicables, comme il y a 10 prédicaments. En comprenant bien la différence, hein, je vous ai dit, c'est une question d'examen, ça. Dites-moi la différence entre les cinq prédicables et les 10 prédicaments. Si vous ne savez pas, Examen en octobre. Ça, c'est élémentaire. Il faut tout savoir, la différence entre prédicable et prédicament. Et vous voyez, c'est là, on le voit, hein, la relation. Si vous analysez l'universel, analysez le prédicament. Est-ce que le prédicament est une relation ? Est-ce que le prédicament est une relation ? Qu'est-ce qui veut dire ça ? Oui, mais je vous pose la question, ça vous dit dans la mesure, je vous pose la question, est-ce que le prédicament est un être relatif? Est-ce que c'est une relation? Parmi les prédicaments, il y a la relation. Donc, il y a un prédicament qui est une relation. Mais il y a un prédicament qui est une qualité. Il y a un prédicament qui est une substance. Donc, je ne peux pas dire que les prédicaments sont des relatifs. Puisqu'il y a une substance. Et c'est même le prédicament par excellence. Autre chose de regarder l'exercice du prédicament dans son attribution. Vous voyez ? Alors là, il y a une relation. Je pourrais regarder maintenant, c'est pour que vous compreniez un peu, je regarderai maintenant une autre relation, la similitude. La relation de similitude. Bon. Deux intelligences semblables. Deux sensibilités semblables. Voilà nos relations de similitude. Cette relation de similitude implique deux termes corrélatifs. C'est sûr. Deux intelligences qui sont face à face et qui sont semblables. Le fondement, la qualité. La qualité ici, l'intelligence. La sensibilité, donc le fondement, puis le sujet. Oui, c'est très élémentaire la relation de similitude. Qu'est-ce qui donne le caractère propre, spécifique de cette relation ? C'est encore le fondement. Relation de similitude dit que le fondement, c'est la qualité. C'est telle qualité. On est semblable quant à son intelligence. On est semblable quant à sa sensibilité. Donc, c'est bien le fondement qui détermine. C'est pas l'exercice. Toute relation de similitude s'exercera de la même façon. Dans une unité de forme. Même qualité. L'unité dans la qualité, c'est ça la similitude. Donc, vous voyez, le rôle du fondement est très, très important. Il spécifie. Et cependant, dans l'amitié, je vois bien qu'il spécifie, mais que la spécification ultime est dans l'exercice. Ce qui est normal, puisque la forme et l'exercice ne sont pas séparés. Et donc, l'exercice est modifié par telle ou telle forme. Alors on pourrait dire, si on voulait préciser jusqu'au bout, c'est ça que je voulais, avec vous, bien regarder. Parce que c'est une très grande thèse dans la scolastique, ça. De savoir si c'est le fondement qui spécifie, ou bien c'est les relations. Regardez, dans la philosophie de Jean de Saint-Thomas, il y a toute une longue tartine là-dessus. Très longue. Pour voir si le fondement, c'est en latin, donc, pour voir la propriété de l'homme. C'est du latin, du XVIe siècle, c'est-à-dire un latin scolastique, très facile, mais c'est quand même du latin, écrit par un espagnol, c'est-à-dire un franc-comtois. C'est un franc-comtois. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Je crois qu'on doit dire ceci. Le fondement spécifie d'une manière radicale. Ça, je crois qu'on ne peut pas nier ça. Mais la spécification modale se fait par l'exercice. Il y a une certaine modalité dans l'exercice qui dépend du fondement. Et je ne peux pas négliger ça. Parce que c'est propre à la relation, justement, d'avoir dans l'exercice même quelque chose qui se fait. Il y a un rodage, si j'ose dire, de la relation. Ça, on ne peut pas nier. Mais quand on parle d'un rodage, qu'est-ce que c'est qu'un rodage? Il y a des choses qui se précisent quand on, en raison même de l'exercice. Et qui se... Alors, ce n'est pas la spécification propre. Le métal ne change pas en raison du rodage. Mais il s'assouplit, il s'affine. Donc, on peut dire qu'il y a une espèce de mode particulier du côté de la spécification. Alors, ça, c'est très intéressant à noter. Ça se voit très bien dans l'amitié. Il y a un rodage dans l'amitié. Dans la similitude aussi, deux intelligences semblables, oui, oui, dans l'appréhension, dans le jugement, dans le raisonnement, oui, la similitude n'est pas toujours la même. Et on verrait ça, vous voyez, dans une course, on dirait, ils sont arrivés exactement au même temps, similitude. Égalité, puisque c'est le temps. Même temps. Mais l'un va plus vite dans les tournants, l'autre en terrain plat. Vous voyez, la similitude va elle-même se caractériser dans l'exercice. Et vous précisez une diversité dans l'exercice. Et vous ne pouvez pas, si vous allez jusqu'au bout, négliger ça. Ça fait partie de la relation. Donc, il faut bien saisir que le fondement spécifie radicalement, mais que le fondement n'est pas suffisant. Alors, est-ce que cela ne nous conduirait pas vers quelque chose de très particulier. De voir que la relation ne peut être saisie que d'une manière analogique. Vous voyez, nos deux registres, univoque et analogique. L'univocité, c'est l'universel. Du moins, l'universel générique, c'est l'universel univoque. Par excellence. L'universel générique, c'est l'universel univoque par excellence. C'est-à-dire, un universel qui se divise, qui se spécifie par quelque chose qui est extrinsèque à lui. Le genre animal se précise et se spécifie par rationnel, qui est extrinsèque au genre. Tandis qu'au contraire, l'universel analogique, ce n'est plus immédiatement la cuite. C'est la ratio. L'universel analogique d'être, s'enracine dans la ratio N10. L'animal générique s'enracine dans la quiddité de animal. L'universel analogique se divise de l'intérieur, selon certains modes. Les prédicables se divisent en 5 prédicables. Et cette division des 5 prédicables se fait de l'intérieur même du prédicable. Ce qui montre que c'est une division analogique. Or, la relation a quelque chose d'univoque par le fondement. Mais comme le fondement ne suffit pas et qu'il faut regarder les deux termes viennent modifier de l'intérieur le fondement pour lui donner son caractère propre. Oui. Alors là, on voit bien qu'une saisie purement univoque de la relation ne peut pas saisir ce qu'il y a d'ultime dans la relation, son exercice modal. On peut encore préciser que je vous ai dit la dernière fois, mais je le reprends pour que vous soyez très net, que les fondements de la relation sont la quantité, la qualité, l'action et la passion. Il n'y en a pas d'autre. Et ceci se fait par mode inductif. Chercher. On va le faire en 2 minutes, ça. Oui, cette chose curieuse. J'ai les 10 prédicaments. Parmi les 10 prédicaments, il y a la relation. Je vois que la relation, c'est le prédicament le plus débile, le plus fragile, le plus précaire. Je me demande si la relation peut se fonder sur les 9 prédicaments. Donc, ce serait une sorte d'appendice au prédicament qui devrait s'ajouter. Est-ce que la relation se fonde sur les 9? Je dis non. Elle se fonde sur quantité, qualité, action, passion. Vous avez donc 4 types de relations. Alors, il faut que je pose la question, vous voyez, pourquoi vous dites ça? Comment se fait-il, parce qu'on répète ça indéfiniment, comment se fait-il que la relation ne peut pas se fonder sur la substance? La substance ne fonde pas la relation. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il peut me dire? Pourquoi la substance ne peut pas fonder la relation?
Parce que la relation exige deux termes corrélatifs.
Ah non, c'est le fondement. Je pourrais dire Pierre est relatif. Agent. Donc, substance, substance, il se regarde comme chien et chat. Oui.
La substance n'est pas source d'autonomie.
N'est pas source de...
d'autonomie.
Elle est source d'autonomie, la substance. Et donc, en tant que source d'autonomie, en elle-même, elle n'a rien de capacité d'être vers un autre. Donc elle ne peut pas fonder une relation. Oui, c'est en raison de son autonomie. Son autonomie absolue. C'est ça que vous vouliez dire. Elle n'a rien de corrélatif. Donc, c'est l'autonomie de la substance. L'autonomie de la substance est tellement absolue qu'elle ne peut pas fonder immédiatement la relation. Il faut un intermédiaire, qui est justement le fondement. Bon, qualité, quantité. Est-ce que le temps ne peut pas fonder une relation ? Est-ce que le lieu ne peut pas fonder une relation ? Est-ce que le situs ? Est-ce que l'habitus ne peut pas fonder une relation ? Et tous les prédicaments, quantité, qualité. Alors, il n'y en a que 9, hein. On ne cherchait pas 10, parce que le 10 est là. Le tri à compter, disons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais ils sont 10. Mais ça, c'est la colle. Mais le 10e est en dehors. Il est sorti du rang. Là, celui-là, il filme à la calade. Alors, faites l'analyse. Est-ce que le temps peut fonder une relation ? C'est pas si commode que ça à voir, hein. On dit oui, voilà. Les relations, c'est uniquement ça. C'est uniquement ça, les relations. Pas le fondement. Alors, tant que je n'ai pas compris la raison pour laquelle seuls ces quatre prédicaments sont au fondement de la relation, je n'ai pas compris le fondement. C'est la hauteur. Oui.
Est-ce qu'on, ce n'est pas parce que temps, lieu, situs et habitus, on peut le voir correspondre d'une substance et pas nécessairement en comparaison avec une autre.
Oui, parce qu'au fond, ce sont des modes eux-mêmes. Le temps sur mesure. C'est mesure le temps. Le lieu aussi. Donc, j'allais presque dire, ils n'ont pas assez d'être pour être fondement d'un autre. Vous voyez ? La substance en a trop et le temps pas assez. La substance a trop d'être pour fonder une relation. Oui, deux personnes sont contemporaines. Elles sont nées à la même date, sous la même étoile. Est-ce que le fondement, c'est le temps ? Être contemporain, qu'est-ce que c'est exactement ? Être sous la même mesure, sous la même étoile. Est-ce que le temps est fondement ? Hein ? C'est pas si commode que ça, moi. C'est une très bonne petite colle, ça. Le lieu de Bethsaïde, la ville de Pierre et d'André, sont du même lieu. Est-ce que le lieu est fonde à un type de relation particulier ? Le situs. Ils sont tous relatifs. Ils ont tous la même manière de marcher. Figura, sa tête, la qualité. Le lieu, ils sont tous dans la même orientation. C'est tout ça. L'habitus. Oui.
Vous dites que le temps n'a pas assez d'être, il est une mesure et donc n'aurait pas assez d'être
pour
fonder une relation. Et est-ce qu'il peut pas être le fondement d'une relation de raison? Je pense par exemple en.
Contemporain. Être contemporain, c'est une relation de raison.
Non, mais je ne pense pas à ça. Je pense par exemple à l'alpha et l'oméga.
Oui. Au point de vue du temps. L'un est au commencement, l'autre est au terme.
C'est ça. Donc le temps n'a peut-être pas assez d'être, mais peut-être assez d'être.
Pour fonder une relation de raison. Ce serait une relation de raison. Et alors contemporain. Ils sont nés sous la même étoile. Ils sont nés sous la même étoile. La même année.
Donc vous avez une référence au réel.
C'est une relation de raison aussi. Ce que vous référez, c'est l'intelligence qui fait cette relation. Il faut y réfléchir. Hein? Parce que, d'une façon classique, c'est que de fait, on regarde ça, voilà. C'est très net. Puis ça, on les supprime. On ne dit pas de fondement. Alors, pourquoi ? On ne se pose pas la question. Je pose la question, pourquoi ? Alors, la substance est très nette. Elle a un être trop indépendant. Alors, je me pose la question, est-ce que les autres sont des formes, soit quantité, qualité, action et passion ? On voit très bien.
Est-ce que c'est pas parce que ce qu'il y a de fondement dans le temps n'est pas assumé par la quantité ? Le fondement dans le monde n'est pas assumé par la qualité ?
C'est parce que justement le temps est une mesure, c'est extrinsèque. Je crois que c'est la raison. Mais le fondement est immanent. Tandis que le temps est une mesure extrinsèque. Le lieu est une mesure extrinsèque. Vous êtes localisé, vous êtes dans le temps. C'est une mesure extrinsèque. Et la mesure extrinsèque ne peut pas fonder une relation. Oui. Oui, elle implique la relation, c'est sûr. Ce serait une relation de relation. Et il n'y a pas de relation de relation. C'est impossible. Je crois que c'est parce que justement, c'est une mesure extrinsèque. Donc, elle n'a pas assez d'être pour fonder. Vous voyez ? Mais elle implique, dans son exercice, une relation. Parce que pour mesurer, la mesure, c'est une relation. Vous voyez ? Il y a une action. Vous mesurez, vous l'appliquez. Le situs, lui aussi, c'est en référence au tout. Donc il est en référence au tout, il implique déjà une relation. Et l'habitus également. Donc, j'allais dire, ce sont des êtres qui ont une pas assez de qualité, pas assez de forme, pour pouvoir être un fondement. Et je crois que c'est la raison. Il faut y réfléchir, mais je crois. Parce que j'ai toujours vu qu'on les écartait, mais qu'on n'avait jamais la raison profonde. Je crois que c'est parce que dans leur exercice, ils impliquent la relation. Déjà. Donc ils ne peuvent pas fonder une relation. Parce que la relation ne peut pas fonder une relation. Vous comprenez très bien pourquoi. Parce que la relation est tout entière tournée vers un autre, donc ne peut pas être support d'un autre. C'est impossible. Et il y a autrement dit, l'égoïsme métaphysique de la substance et, je ne dis pas l'égoïsme métaphysique de la relation, mais la débilité trop grande de la relation. Pour être fondement, il faut être généreux. Il faut fonder quelque chose d'autre. Et l'égocentrisme de la substance et la débilité trop grande de la relation nous empêchent d'être fondement. il semble que le terme corrélatif, donc les deux termes corrélatifs, ne puisse pas, au sens propre, spécifier et déterminer le relatif, et qu'il lui permette de s'exercer, et ainsi lui donne son exister. Et alors, ce que j'ai ajouté, c'est que il y a quand même, dans le point de vue du terme, une certaine modification d'exercice. Ce que je crois important à noter. On peut se poser la question, quel rapport y a-t-il, hein,